Chapitre 19e. Nous arrivâmes un soir à Grigau. J'avais laissé parler Robert Jacques. J'avais toujours pensé que son désir de nous amener chez le beau-frère de sa sœur finirait par passer pour une idée fixe. Mais Robert Jacques, sans rien dire, nous y avait conduits. Et voilà que tout à coup, ce danger lointain que je croyais avoir tout le temps d'éviter était présent. Nous allions, pour la première fois, remettre notre sort entre les mains de gens que nous ne connaissions pas. Ce qui m'inquiétait, c'était que Robert Jacques, pour nous mettre en confiance, nous avait laissé entendre que ces riches fermiers auxquels il était vaguement apparenté avaient déjà aidé d'autres évadés. Ils devaient donc être surveillés. Il me paraissait par ailleurs bizarre qu'ils acceptassent ainsi des risques pour des inconnus. Mes camarades eux ne voyaient pas du tout la chose comme moi. Qu'on les aidât leur semblait tout naturel. Ils avaient conscience, bien qu'ils se cachassent comme moi, de n'avoir rien fait de mal, de n'être que des Français qui cherchent à regagner leur pays. Ce n'était pas un crime. J'avais beau leur répéter que nous étions imprudents, ils ne s'en rendaient pas compte. Entre autres arguments, je leur rappelais que ces fermiers ne nous avaient pas attendus pour secourir des Français, et qu'en une période comme la nôtre, une telle conduite n'avait pu passer inaperçue. Je perdais mon temps. Bailliencourt, avec cette distinction qu'il savait se donner sous son uniforme sale et déchiré, avait, quand on lui rapportait mes objections, l'air supérieur d'un homme aux prises avec les bêtises des petites gens. Il ne se donnait même pas la peine de répondre. N'était-il pas surprenant que des gens, somme toute si heureux, s'exposassent à être emprisonnés, exécutés, pour des évadés simplement parce qu'un des membres de leur famille était d'origine française? Cette dernière raison était pourtant suffisante aux yeux de mes camarades. Ils se faisaient d'une telle idée de leur patrie qu'ils trouvaient tout naturel que pour un Français une famille entière d'Allemands risquait la prison et la mort. Moi, plus modestement, je ne croyais pas que ce fût possible. Aussi étais-je vraiment inquiet. Et puis nous étions si nombreux que Robert Jacques tout seul se fût rendu chez le beau-frère de sa sœur, c'était encore admissible, mais nous tous... L'insistance de notre camarade, je devais le reconnaître, dénotait une belle nature. Des actions de ce genre sont parmi les plus belles qui existent. Robert Jacques ne songeait pas qu'à lui. On le sentait plus désireux de pouvoir nous être utile que de se sauver lui-même. Lorsque je pénétrai dans cette famille Boche, j'eus la brusque révélation de ce qu'était vraiment la bonté et le désintéressement. J'avais une telle admiration pour ses qualités que j'aurais voulu être le seul à en bénéficier. Un sentiment confus d'envie m'envahit. Je souffrais que mes camarades fussent l'objet d'attentions de gens aussi exceptionnels. J'aurais voulu être seul assis à la table familiale et montrer à tous qu'était un vrai Français intelligent. On peut se rendre compte par ce détail à quelle distance je me trouvais moralement en cette circonstance de Robert Jacques. Je jalousais surtout Bailliencourt, que je considérais au fond comme un hypocrite, car je me rappelais sur quel ton il m'avait parlé de ces Allemands. Il m'avait dit sans les connaître que c'étaient des gens peu sympathiques, qu'il avait horreur des traîtres à quelque pays qu'ils appartinssent, que ce n'était pas parce qu'il lui était utile qu'il les estimait. Et à présent, il ne savait que faire pour leur plaire. Oui, j'aurais voulu être seul, mais quelques jours plus tard, quand je le fus, je m'aperçus que la présence de mes camarades avait toujours été en réalité un soutien. J'avais cru que le fait d'être seul me ferait retrouver mon audace naturelle et me ferait aimer ceux que j'approcherais. Or, je m'aperçus que je devenais encore plus craintif. Je regrettais d'avoir quitté mes camarades. Les échecs et les difficultés me frappèrent beaucoup plus qu'avant. Quand nous étions 10, nos demandes étaient prises beaucoup plus au sérieux, un refus étant plus gros de conséquences. Nous avions l'air plus militaire. C'était presque comme si nous formions un détachement régulier. Notre nombre rendait la dureté des cœurs plus visible. Nous pouvions dire n'importe quoi. Nous disions la vérité, tandis qu'une fois seul, je m'en rendis vite compte, quoi que je fisse, j'eus un air louche. Tout ce que ces Allemands faisaient pour mes camarades et pour moi, car je faisais partie du nombre, me fit réagir de façon étrange. Je simulais une grande froideur, si bien qu'on ne tarda pas à voir en moi qui, justement, comprenait le mieux ces Allemands, un spécimen du Français antipathique, de ce Français qui répond à de la gentillesse par de la morgue, qui ne cache pas son mépris des étrangers et qui, même dans le malheur, ne demande rien à un Allemand. Je compris que c'était la punition des envieux de passer pour ce qu'ils ne sont pas. Brusquement, je me mis à plaisanter comme tout le monde. Il n'en fallut pas davantage pour que je regagnasse aussitôt le terrain perdu. On nous installa dans une grange. Bisson, qui mettait toujours les choses au pire, dit en montant l'échelle qu'on pouvait très bien se casser la colonne vertébrale. Peu après, les femmes nous apportèrent des sous-vêtements chauds. J'étais un peu gêné vis-à-vis de mes camarades. J'avais fait tant de préparatifs pour notre évasion, et tous ces préparatifs apparaissaient tout à coup si peu de choses à côté de ce qu'avait fait Robert Jacques sans rien dire. On ne me regardait plus. J'avais baissé dans l'estime de mes camarades. Robert Jacques était devenu leur grand homme. Au moment du partage, tout le monde se jeta sur les vêtements. Il se produisit alors une scène assez comique. Comme je n'avais pas bougé, que je n'avais pas voulu me battre pour me servir, il se trouva que tout fut enlevé sans que j'eusse rien. Le beau-frère de la sœur de Robert Jacques, s'en apercevant, ne voulut pas que je fusse lésé. Il alla chercher d'autres vêtements pour moi, si bien que, sans avoir fait le plus petit effort, j'eus beaucoup plus que mes camarades. Nous étions si nombreux dans cette grange, et nous faisions tant de bruit, que je craignis que l'attention des voisins ne fût attirée. J'essayais de faire comprendre à chacun ce qu'il devait faire, au cas où des gens viendraient se plaindre. Mais le fait d'être reçu par des Allemands leur avait tourné la tête. Personne ne prêta attention à mes recommandations. Je m'assis tristement dans un coin. Bio s'était mis à chanter une chanson effroyablement dramatique. À ce moment, Baumé s'approcha de moi. Il était toujours le seul à se conduire comme un frère. Chaque fois que je souffrais de quelque chose, il s'en apercevait. Sans que je fisse rien pour cela, sans qu'il y eût la moindre pression de ma part, il se privait du plaisir de rester avec ses camarades pour me rejoindre. J'essayais de me servir de lui comme d'un intermédiaire. Je le persuadais que lui, on l'écouterait. Mais il eut l'air si sincèrement effrayé du rôle que je voulais lui faire jouer, que je n'insistais pas. Soudain, un coup de sifflet retentit dans la ruelle. Je me dressai d'un bond. Personne n'avait bougé. Bailliencourt faisait un écarté avec Roger. Quatre d'entre nous étaient à demi allongés sur de la paille. Je criai « Levez-vous !» On me regarda avec étonnement. Je compris qu'on se demandait si le meurtre des deux sentinelles ne m'avait pas dérangé cérébralement. Je voyais les choses d'un point de vue faux, parce que j'étais plus compromis que les autres. Je cherchais à exposer mes camarades à des dangers qu'ils ne couraient pas, sous prétexte que moi je les courais. Peu après, comme ce coup de sifflet demeura sans suite, je me rendis compte qu'il n'avait pas tout à fait tort. J'eus un peu honte de ma frayeur subite. Je pensais que dans l'impossibilité où j'étais de discerner le vrai danger du faux, il valait peut-être mieux que je fusse seul.